Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Salut, c'est Camille Regache.
Histoire de célébrer à notre façon le démarrage chez Binge Audio de notre nouveau podcast consacré au genre et à la sexualité qui s'appelle Camille, on a eu envie d'unir nos forces pour un épisode crossover, d'autant plus que niveau actu, on est plutôt servi en ce moment.
On parle beaucoup de genre en ce moment, notamment avec les discussions autour de la révision de la loi de bioéthique qui ont démarré par des débats assez intenses à l'Assemblée, au sein de la commission spéciale chargée d'éplucher les milliers d'amendements déposés par les députés.
Au cœur des crispations, vous l'avez vu venir, il y a la PMA, la procréation médicalement assisté, que le gouvernement s'est engagé à ouvrir à toutes les femmes et donc aux couples de femmes. Une perspective qui en angoisse certains très très fort. On a notamment entendu le mot malédiction prononcé récemment, une rhétorique apocalyptique qui présage de discussions très apaisées.
On a aussi commencé à entendre des arguments assez étonnants. Par exemple, la députée La République En Marche Béatrice Piron a proposé un amendement introduisant une condition de ressources à l'accès à la PMA.
Afin de garantir une enfance loin de la précarité, tout couple formé d'un homme ou d'une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule souhaitant entamer un processus de PMA doit pouvoir justifier de revenus susceptibles de permettre sa subsistance et celle de l'enfant à naître.
Bon, ça a été retoqué. Mais du coup, on s'est demandé, faut-il être riche pour être parent? Et puis surtout, pourquoi est-ce que régulièrement, lorsqu'on aborde la question de l'homoparentalité, qui est au cœur des réflexions sur la PMA, on se retrouve bombardé de critères supplémentaires?
Et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à ces questions, il nous fallait une pointure et on l'a trouvée en la personne de Martine Gross.
Elle est membre du CNRS, ingénieure de recherche en sciences sociales, et on lui a demandé pour commencer ce que ça lui inspirait, cette proposition de conditions de revenus pour l'accès à la PMA.
Ce que ça m'a fait penser, c'est que, vous savez, les médecins, c'est eux qui ont le dernier mot pour dire qui peut avoir accès à la PMA. En fin de compte, quand des couples, quand des couples, jusqu'à présent, c'est que des couples hétérosexuels, viennent pour demander une PMA, en fin de compte, c'est le médecin ou l'équipe médicale qui décide si oui ou non ils vont permettre à ce couple d'accéder à la PMA. Et je sais, pour travailler par ailleurs dans un centre d'éthique clinique, que certains médecins se posent des questions quand le couple n'a pas des revenus suffisants ou quand le couple vit dans la précarité. Mais un amendement, et que ce soit marqué dans la loi, c'est encore complètement autre chose. Ça voudrait dire que seules les personnes ayant des revenus suffisants pourraient accéder à la PMA, ce qui est complètement contraire à l'universalisme de nos lois, à l'égalité de tous les citoyens. Déjà, le fait que, en fin de compte, le dernier mot revient au médecin, c'est limite. Hein. C'est vraiment limite comme pratique. Mais on sait qu'elle existe. Hein. Si on commence à vérifier que les gens sont assez riches pour pouvoir concevoir un enfant, ben je vois pas pourquoi il faudrait aller vérifier ça pour les gens qui ont recours à la PMA et pas pour les gens qui font des enfants sous la couette. Hein. Il faudrait délivrer un certificat de revenus qui permet aux uns et aux autres de concevoir un enfant. Et c'est assez choquant, en fait. C'est assez choquant. C'est pas parce que des gens ont besoin de l'aide médicale pour procréer qu'il faut aller vérifier un certain nombre de critères les concernant, qu'on ne vérifie pas chez les gens qui font des enfants par eux-mêmes et qui peuvent être par ailleurs complètement déglingués, alcoolos, drogués, dans la précarité. Et ça, personne ne vérifie quoi que ce soit dans ce contexte-là.
Là, on parle de PMA. Si on prend un autre cadre, en fait, de parentalité, par exemple d'adoption, la notion de revenu minimum pour les parents, elle est aussi induite dans les conditions d'accès à le statut de parent par adoption aujourd'hui ?
Absolument, mais c'est pareil, c'est pas marqué dans la loi.
Oui.
Ce qui est marqué dans la loi, c'est que les couples et, ou les personnes seules qui sont candidats doivent passer par des investigations des services sociaux du département pour obtenir l'agrément. Et les services sociaux ne manquent pas, effectivement, de vérifier les conditions sociales, les conditions de revenus de, des personnes candidates. Et effectivement, si on a des personnes qui vivent dans la précarité, elles n'ont aucune chance de pouvoir adopter un enfant. Mais c'est dans les pratiques. Hein. Elles peuvent être contestables, mais ce n'est pas inscrit dans la loi.
Oui.
Ce n'est pas inscrit dans la loi. Dans la loi, il est juste indiqué qu'on veille par ces investigations à ce que les conditions d'accueil de l'enfant soient correctes. Donc on peut imaginer qu'en effet, des gens dans la précarité ne pourraient pas accueillir un enfant.
Qu'est-ce que ça révèle pour vous qu'on soulève cette proposition-là de limiter l'accès selon les revenus dans un cadre de discussion pour une loi qui concerne des couples homo et pas dans le cadre de discussion hétéro?
Oui, mais c'est ça, c'est complètement fou. Ça voudrait dire que on doit veiller davantage à cette condition de sécurité économique pour les couples de femmes, davantage que pour les couples hétérosexuels. C'est quand même étrange, c'est... Peut-être que ça part d'une espèce d'idée, de préjugé, d'idée préconçue selon laquelle les femmes ont moins de moyens que les hommes. Mmh. Alors c'est vrai, elles gagnent moins que les hommes, mais elles seraient... Peut-être que c'est une extension des préjugés qui concernent les femmes seules. Les femmes seules, on imagine qu'elles sont... on se base sur les familles monoparentales, des femmes qui ont été délaissées et qui perdent en moyens et en revenus après la séparation. Et puis on étend ça à deux femmes. Bien sûr, on l'étend déjà aux femmes seules, même si on sait très bien que les femmes qui veulent recourir à la PMA dans une maternité solo ne sont pas du tout les mêmes femmes que celles qui sont délaissées ou qui ont perdu leur compagnon. Au niveau économique, ce n'est pas la même chose, mais ça ne fait rien. On étend quand même, on fait comme si c'était pareil. Et peut-être qu'on va se dire, deux femmes, c'est pareil, elles ont moins de revenus, elles ont moins de revenus qu'un couple hétérosexuel.
De manière générale, nous, dans notre réflexion, quand on a avec Camille, quand on discutait du sujet, ce que ça nous faisait nous dire, c'est que dès qu'on arrive sur le terrain de l'homoparentalité, il faut donner des gages supplémentaires que les parents hétéros. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de critères qui est supplémentaire.
Absolument. Il faut que ce soit des parents plus que parfaits. D'ailleurs, les parents gays et lesbiens se mettent eux-mêmes la pression à ce sujet. Ils se posent 10 fois plus de questions que tout le monde. Ils sont très attentifs à la moindre différence de comportement de leurs enfants. Ils sont très partie prenante dans l'univers scolaire de leurs enfants. D'une certaine manière, ils ont intégré la mission d'être des parents plus que parfaits parce qu'ils représentent la minorité des familles homoparentales. Et alors, eux, ils l'ont intégré, mais ils l'ont intégré pourquoi ? Parce qu'on attend d'eux aussi. On sait que s'il y a la moindre défaillance, on dira, vous voyez... vous êtes une famille homoparentale, c'est bien pour ça que ça ne fonctionne pas, c'est bien pour ça que si, que ça.
Vous pouvez les lister, ces défaillances ? Quand vous dites à la moindre défaillance, on va leur rappeler en fait...
La moindre défaillance, comme dans n'importe quelle famille, un enfant peut être indiscipliné, peut... Ne parlons pas de l'enfant qui pourrait avoir une différence de genre, qui voudrait s'habiller en rose, un garçon qui voudrait s'habiller en rose ou une fille qui serait garçon manqué. Tout de suite, on dirait c'est forcément, il a des parents de même sexe et des parents homo. D'ailleurs, les études de quelques sociologues qui se sont penchés sur la transmission du genre dans les familles homoparentales montrent que finalement, les familles homoparentales, elles sont assez... vigilantes, elles sont attentives et elles vont ne pas aller, même si au départ elles n'ont pas envie d'être conformes à la d'être forcément à transmettre la norme, et ben finalement elles vont la transmettre quand même, et elles vont ne pas habiller, elles vont jamais habiller leurs garçons en rose, elles vont accepter d'acheter des poupées Barbie aux petites filles, même si au départ elles étaient plutôt ouvertes sur d'autres possibilités, et puis assez contre l'idée d'acheter des dinettes et des poupées Barbie à leurs filles, ben elles vont quand même le faire pour que leurs enfants soient conformes. Mais j'ai pas tout à fait répondu à votre question, parce que en fait les défaillances c'est les mêmes défaillances que n'importe quel enfant dans n'importe quelle famille, hein. La moindre, simplement les familles homoparentales craignent que les bêtises de leurs enfants soient éventuellement rapportées à la structure de leur famille qui est différente.
Ces familles, elles doivent donner des gages de normalité quelque part. C'est un peu ce qui est exigé d'elles, des fois insidieusement par
oui,
la société dans son ensemble.
Je dirais que vous avez raison, oui. Oui. Mais ceci dit, d'après les enquêtes que j'ai pu mener auprès des familles homoparentales, la plupart des familles homoparentales sont tout à fait dans la norme en ce qui concerne les valeurs et les comportements et l'éducation qu'elles donnent aux enfants. Donc elles sont dans la norme. Ce qui est différent chez ces familles, c'est qu'il y ait deux parents de même sexe, c'est la structure de la famille. Mais ce qui est transmis aux enfants, c'est pas très différent. C'est pas différent du tout, d'ailleurs.
Est-ce qu'elles sont dans la norme ou est-ce qu'elles sont dans une surconformité de cette norme? Est-ce qu'elles l'exagèrent?
Non, je dirais pas qu'elles l'exagèrent, mais elles sont dans la norme, simplement. Mais c'est vrai qu'elles peuvent craindre que leur enfant soit stigmatisé du fait du regard social qui n'est pas encore tout à fait complètement bienveillant sur l'homosexualité. Et puis, elles peuvent craindre, effectivement, que la moindre bêtise, comme je disais, le moindre comportement non conforme de leur enfant pourrait être rapporté à la structure familiale. Mais de là à dire qu'elle surjoue la conformité, je dirais pas ça.
Il y a quelque chose d'assez frustrant de voir que, moi j'ai l'impression que ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, que justement des chercheurs comme vous expliquent que ces enfants, ces familles, elles sont finalement assez semblables aux autres familles, et que quelque part on en est encore là dans le débat, et on le voit là avec le débat sur la PMA, on en est à réentendre les mêmes arguments de risque pour l'enfant, et de finalement ces couples-là ne sont toujours pas acceptés, même par les corps sociaux installés.
C'est-à-dire, ce que je dirais, c'est que d'une part, les gens lisent pas les études, les gens ne s'intéressent pas forcément à ce qui a été publié sur ce sujet. C'est pas un sujet qui intéresse tout le monde, donc voilà, les gens sont pas au courant. Et deuxièmement, c'est que si vous prenez les voisins de ces familles, les gens qui côtoient ces familles, ben vous n'aurez pas du tout les mêmes propos. Les gens qui côtoient les familles homoparentales ne vont pas avoir les mêmes préjugés, les mêmes idées préconçues sur ces familles. Ils vont s'apercevoir que les enfants vont bien, que les parents ont les mêmes préoccupations que n'importe quel autre parent. Donc les proches de ces familles, les voisins, ceux qui les côtoient, n'ont pas les mêmes préjugés. Donc c'est une question de connaissance, soit de connaissance intellectuelle par la lecture des publications, des recherches qui sont menées sur ces familles, soit par la connaissance familière de ces familles, la connaissance proche.
C'est par la visibilisation justement qu'on avancera collectivement.
Absolument.
En termes de société.
Absolument, c'est la visibilité, c'est d'ailleurs presque plus important encore que les publications scientifiques, c'est la visibilité, c'est pourquoi depuis une vingtaine d'années, les familles homoparentales se montrent, je dirais même depuis la fin des années 90, se montrent dans les médias, et ça contribue quand même beaucoup au changement des mentalités. C'est indéniable.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe dans le fait d'être dans une société dans laquelle les modes de vie familiale sont extrêmement différents, des familles recomposées, des divorcés, des enfants qui vivent avec des beaux-parents ou alors avec les enfants d'un premier mariage, et le fait de devoir passer par cette famille un peu cliché, on va dire, de non pas papa et maman, mais deux parents, et donc un modèle très nucléaire, en fait, pour que les familles qui sont déjà hors normes soient acceptées.
Alors, je dirais que si les familles homoparentales commencent à être acceptées, c'est justement à cause de la pluralité des familles d'aujourd'hui. On a vraiment toutes sortes de familles, comme vous l'avez dit, des familles recomposées, des familles adoptives, des familles qui ont recours à la PMA. Et les familles homoparentales sont une forme de famille parmi d'autres. Et c'est pour ça qu'elles peuvent commencer à être acceptées. Ça aurait été bien plus difficile de parler de famille homoparentale dans les années 70, dans les années 60, parce que là, il n'y avait que le mariage qui était possible. Pour fonder une famille, on devait se marier. Et se marier, évidemment, être hétéro et avoir des enfants. Et on ne parlait pas de l'adoption quand il y avait adoption. La PMA, c'est venu bien plus tard. Je pense vraiment que les familles homoparentales trouvent leur place au sein de cette pluralité, de cette pluralisation des formes familiales. En revanche, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand même, la norme, y compris dans toute cette pluralisation de familles, c'est la norme conjugale. On est deux. Et c'est très compliqué de faire changer les mentalités pour accepter qu'on soit plus de deux, par exemple. Ça, c'est compliqué. Deux, ça passe. Hein. Donc, une famille homoparentale de deux femmes ou de deux hommes, bon, même si des fois, ça passe un petit peu avec des hoquets, hein, ça hoquette sur la route, mais ça commence quand même à se faire accepter, mais c'est parce que c'est la norme conjugale. Et même les familles homoparentales, le projet parental d'un couple de femmes, c'est un projet conjugal. Elles sont deux, elles veulent avoir un enfant à deux. Le projet conjugal, le projet parental des couples d'hommes qui font une GPA, c'est un projet de couple, c'est un projet parental conjugal. Donc ça, c'est une norme très très forte et elle est très forte chez les hétérosexuels aussi. Or, dans les familles homoparentales, il y a une forme de famille qui est la coparentalité où on peut être trois ou quatre parents. Et ben ça, c'est assez difficile à accepter dans notre société, qu'on puisse être plus de deux parents. Et d'ailleurs, les familles recomposées hétéro ou homo ont du mal à faire exister toutes les personnes autour de l'enfant. C'est les parents de l'enfant, c'est le père et la mère qui ont donné la vie à l'enfant. Et la place des beaux-parents est très difficile à se faire dans notre société. Et quand les beaux-parents ont une place, ou quand on cherche, si vous regardez les débats qui ont eu lieu sur le statut du beau-parent, ben vous avez eu une levée de bouclier des pères biologiques qui avaient peur de perdre leurs prérogatives ou de perdre leur place en faisant place à une troisième personne qui serait le beau-père. On a un petit peu du mal à imaginez une famille de plus de deux.
Ou de moins de deux.
Moins de deux, ça passe plus facilement que plus de deux. Mais on ne voit que, en fait, une famille de deux dont un a été supprimé, dont un est parti, et qui a laissé une pauvre femme seule, démunie. Et donc, on a un petit peu du mal à accepter l'idée qu'une personne pourrait vouloir faire une famille solo. Ça passe pas complètement. Mais disons que ça passe moins bien que le couple de femmes, puisqu'on le voit à l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas encore à l'Assemblée nationale, mais en commission spéciale, il y a eu quand même des députés pour craindre que pour une femme seule, ce soit plus difficile que pour un couple de femmes.
Évidemment, on est loin d'en avoir fini avec le vaste sujet de la PMA. L'actualité nous donnera très certainement l'occasion d'en reparler très rapidement.
Et d'ailleurs, pour rester sur le thème de l'homoparentalité, sachez qu'il en sera notamment question dans le prochain épisode de Camille, où je reçois la sociologue Sylvie Tissot.
Le fait que les couples gays veuillent avoir des enfants et en ont, ça peut être accepté, mais au prix aussi d'un contrôle, là je crois, qui est redoublé. Alors, ce contrôle, moi je l'ai observé beaucoup aux États-Unis, notamment dans les écoles. Je fais un petit détour par de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, où dans les écoles, à la différence de la France, avoir des parents gays, dans certaines écoles, dans les milieux dont j'ai parlé, c'est très valorisant. ça fait partie d'une diversité à laquelle on a envie de socialiser son enfant. Donc c'est bien d'envoyer son petit garçon ou sa petite fille dans une école où vous allez avoir eh bien, des enfants qui ne sont pas tous blancs, bon, beaucoup blancs mais pas tous, et puis des parents aussi, avoir, voilà, qui puissent avoir un petit copain, une petite copine dont les parents sont gays. C'est quelque chose de positif. À condition que ses parents, en fait, soient dans quasiment une surconformité, quoi. Qu'ils soient pas seulement des bons parents, mais des super bons parents, qu'ils aillent encore plus aux réunions de parents d'élèves, qu'ils fassent trois fois plus de gâteaux aux fêtes de fin d'année, et que surtout, il n'y a absolument pas d'affichage de ce qui pourrait être considéré comme trop gay, de marques de tendresse, par exemple, de discours, là encore, trop revendicatifs. Et j'en donnais un exemple, hein, un couple de lesbiennes que j'ai interviewées à New York, qui soulignait d'une manière un petit peu ironique que justement, elles avaient l'impression que pour beaucoup de parents hétéros, elles jouaient un rôle très positif et que c'était assez cool, finalement quelque chose de positif, mais elles avaient le sentiment d'être instrumentalisées. Et puis, elle disait, pour ses parents hétéros, c'est bien, mais c'est aussi qu'on a un couple de lesbiennes super respectable. Elle, en me désignant sa compagne et avocate, moi, je lis le New York Times. Enfin, voilà, c'est des indicateurs de notabilité. Et puis, je leur disais, mais ce serait quoi de ne pas être respectable? Elle me disait, c'est si on était carpenter, donc si on était menuisière, et si on parlait de renverser le patriarcat.
Merci à Martine Gross pour ses réponses et évidemment à ma camarade Camille Regache d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Profitez-en au passage pour vous abonner à Camille, Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.